20 mois après la disparition du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence, 4 personnes placées en garde à vue depuis hier soir. Parmi ces personnes, les grands-parents du petit garçon. Le budget 2025 de la province des îles adopté à l'unanimité d'un montant de plus de 15 milliards de francs. Il est en baisse de 6% par rapport au budget 2024. La province soutient ses engagements financiers envers l'enseignement privé. En 2024, elle a versé 630 millions à l'enseignement catholique et indique qu'elle est à jour de ses participations. Plusieurs dizaines d'élus se sont rassemblés ce matin devant l'Assemblée nationale pour demander la libération de Boualem Sansal. Toute la classe politique représentée, toute, sauf la France insoumise. Deux Alpha Jets de la patrouille de France sont entrés en collision cette nuit pour nous lors d'un entraînement à Saint-Dizier. Les trois militaires qui se trouvaient à bord des deux appareils ont réussi à s'éjecter. Le sport, le tennis, avec la huitième de finale du Masters 1000 de Miami, Arthur Fils et Gaël Monfils seront sur les courts aujourd'hui. Et puis la météo de votre mercredi, une journée globalement nuageuse avec, attention, des averses parfois orageuses à prévoir dans l'après-midi.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Lionel.
Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, l'actualité en métropole.
Oui, avec ce rebondissement dans l'affaire de la mort du petit Émile, disparu le 8 juillet 2023 dans un hameau des Alpes de Haute-Provence. On a appris en fin d'après-midi hier que les grands-parents et deux de leurs enfants avaient été placés en garde à vue pour des faits d'homicide volontaire et de recel de cadavres. Une perquisition a été menée au domicile des grands-parents du petit Émile. Perquisition dans la commune de la Bouilladis, c'est tout près d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Stéphane Burgat pour Europe 1.
Une perquisition qui a pris fin un peu avant midi avec une dizaine de gendarmes de la section de recherche de Marseille ainsi que des techniciens pour procéder à des relevés dans le jardin comme à l'intérieur de cette villa avec un étage situé aux abords de la commune sur une colline en lisière de forêt. Ils sont repartis tout à l'heure avec le véhicule du grand-grand-père, un SUV Hyundai. Une remorque de transport de chevaux a également été saisie, bâchée et placée sous scellé. Les gendarmes qui ont, semble-t-il, exploré en premier le rez-de-chaussée de cette maison coquette en fermant les volets avant de poursuivre à l'étage. Dans le voisinage, les habitants très discrets refusent de s'exprimer au micro, mais nous décrivent des voisins vivant en autarcie, mais des voisins sans histoire avec qui ils entretenaient de bons rapports. Leur garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures. Leur avocate se refuse pour le moment à tout commentaire.
Stéphane Burgat, l'envoyé spécial d'Europe 1 à la Bouilladis, dans les Bouches-du-Rhône. On le disait, le petit Émile a donc disparu le 8 juillet 2023, quelques heures seulement après son arrivée pour des vacances dans le hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, où les grands-parents de l'enfant possèdent une maison de campagne, un hameau sous le choc après l'annonce des gardes à vue des grands-parents d'Émile. Frédéric Michel pour Europe 1.
Dans ce village de montagne d'une centaine d'âmes, le réveil a été brutal, violent, me disait une habitante qui ne s'attendait pas à ce scénario. Beaucoup de portes restent fermées, la majorité des maisons sont inoccupées, on n'est pas en saison, les habitants vivant à l'année dans ce petit bourg sont peu nombreux et actuellement il y a plus de journalistes dans les rues de la commune et autour de la maison de vacances des grands-parents d'Émile, Philippe et Anne Védovini. C'est là, dans le hameau du Haut-Vernay, que le garçonnet de 2 ans et demi a disparu le 8 juillet 2023, alors qu'il avait été confié la veille à la surveillance de ses grands-parents maternels. Aujourd'hui, la bâtisse est fermée, les volets sont clos. Ici, pas de perquisition comme à la Bouilladis, près de Marseille, au domicile de la famille. Et les rares personnes croisées au Vernay sont peu locales. Quelques habitants, vous allez l'entendre, ont accepté de parler. Ils insistent sur l'importance d'être prudent.
Il y a juste des gardes à vue. Après, voilà, le temps de la garde à vue, l'enquête continue son cours et puis on verra bien comment ça va se terminer.
On n'émet pas d'hypothèse, on n'a rien à en dire. Il n'y a pas à commenter ce qui n'est pas à commenter. Je vous dis que le village vit normalement, tout comme les autres villages aux alentours, comme si on habitait à Seine, et que ce n'est pas un sujet de conversation ni de suspicion au quotidien du voisin ou d'autres habitants, pas du tout. Et qu'il y a très peu de commentaires de faits sur la situation concernant le petit Émile. Voilà.
Évidemment, tout le monde espère connaître, d'abord connaître un jour la vérité et connaître vraiment l'issue de ces gardes à vue.
Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 au Vernay, où le petit Émile a disparu il y a maintenant 20 mois. Rappelons que les grands-parents d'Émile et deux de leurs enfants ont été placés en garde à vue hier soir pour nous. Garde à vue pour des faits, je vous le rappelle, d'homicide volontaire et de recel de cadavres. À la une en Calédonie, un budget de prudence pour la province des îles. L'Assemblée de province a adopté hier à l'unanimité son budget primitif 2025. L'un des objectifs est de commencer à résorber la dette de la collectivité, Léo Fichou.
Le budget 2025 est d'un montant de 15,185 milliards, dont 12,695 milliards en fonctionnement et 2,483 milliards en investissement. C'est avant tout un budget de prudence, prévient l'exécutif dans sa présentation, en rappelant que les indicateurs économiques sont très dégradés et qu'un cadrage très contraint a été nécessaire pour la section de fonctionnement. La province des îles veut toutefois maintenir une part importante pour l'enseignement et la santé. Une partie de ce budget est aussi dédiée à la régularisation du mandatement d'office, tout en essayant de maintenir un financement convenable dans les autres secteurs. Le président de l'Assemblée des de province, Mathias Ouaneux, a présenté les grandes lignes de ce budget.
Le budget de la province des îles était centré sur un budget de prudence. Un budget de prudence, d'autant plus que en 2024, le budget était à presque 26%. Là, on est à 16%. Ça veut dire qu'on a perdu à peu près 900 millions sur l'inscription du budget 2025. Ce qui a été décidé, c'est de continuer à travailler sur les secteurs qu'on a priorisés, à savoir la santé, l'enseignement et l'habitat social. Et dans le même temps, d'apurer déjà au moins une partie de nos dettes de 7,5 milliards.
Ce budget 2025 comprend des mesures d'optimisation et de rationalisation de certaines dépenses de fonctionnement, notamment celles qui concernent la masse salariale. D'autres mesures suivront, notamment pour se conformer aux recommandations de la Chambre territoriale des comptes et des partenaires financiers. Il faudra donc faire des efforts, mais ce budget a été adopté à l'unanimité.
Ça s'est très bien passé avec un vote à l'unanimité et avec des élus qui ont assumé leurs responsabilités. Dans la phase où nous sommes endettés à 7,5 milliards et avec des coupes budgétaires qui ont été acceptées partout et dans laquelle chaque élu doit assumer dans sa propre commission avec ses managers pour pouvoir, une fois ce budget voté, pouvoir mettre les actions qui ont été priorisées dessus. Il n'y a pas d'opposition à la province de Lille, hein. C'est tout simplement des élus qui sont tous indépendantistes et qui sont tous responsables.
En termes d'investissement, la province des îles fixe comme priorité les remboursements des avances effectuées par l'État sur l'opération du port de Tadine, le remboursement de la défiscalisation et les factures impayées liées au projet de l'hôtel Ouadraba. Le président de la province des îles a tenu aussi à rassurer les créanciers.
Je voudrais tout simplement appeler à la bonne compréhension de tous ceux qui ont eu des factures impayées pendant des mois, hein. Des gens, ils étaient tous en attente. On a fait le travail avec le payeur pour qu'on puisse étayer certains mandatements d'office, hein, des mandats d'office qui viennent particulièrement des organismes dans lesquels on doit beaucoup d'argent à eux, donc on a traité avec eux. Mais en même temps, avec tous les petits prestataires, avec tous ceux qui travaillent dans l'habitat social et autres, pour qu'on puisse déjà, d'ici ce budget, pouvoir régler leur situation pour qu'ils puissent vivre et reprendre leurs activités correctement.
Et en matière d'investissement, l'objectif de la province des îles est également la poursuite du programme d'habitat social, l'amélioration des infrastructures communautaires ou encore la remise aux normes des équipements sportifs en faveur des jeunes des tribus.
Il est 6h39, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant. La suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, Agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 6h-8h, Lionel Sabot.
À deux jours de son départ en Nouvelle-Calédonie, le ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a reçu à déjeuner rue Audineau le député Nicolas Metzdorf. La rencontre a duré deux heures en tête-à-tête. Une discussion où ont été abordés tous les sujets, à commencer par le rappel des fondamentaux du camp loyaliste avant l'ouverture des négociations. Écoutez Nicolas Metzdorf.
On est prêt éventuellement à des compromis, mais pas de la compromission. Et donc c'est ce que j'ai rappelé au ministre Valls, c'est-à-dire que nous, on est toujours dans le respect de la démocratie des trois référendums et du droit de vote des Calédoniens au travers l'ouverture du corps électoral. On est sur la sécurité pour tous et on est pour l'égalité entre tous les Calédoniens, qu'on soit Kanak ou pas. Donc à partir du moment où ces fondamentaux sont respectés, nous, on est OK pour ouvrir la discussion. Par contre, je lui ai rappelé que, comme on l'a toujours dit, pas d'accord vers l'indépendance, pas d'accord vers l'indépendance association, pas d'accord vers une quelconque trajectoire qui irait vers une forme d'indépendance. Donc je crois que le ministre avait bien compris le message déjà, mais ça a été un moment pour moi pour le lui rappeler.
Lors de son premier déplacement à Nouméa et depuis son retour à Paris, Manuel Valls a répété à plusieurs reprises que sans accord politique, il n'y aurait pas de redressement économique et qu'il faudrait trouver des compromis. Oui, répond Nicolas Metzdorf, mais pas à n'importe quel prix.
Oui, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire on n'est pas à équidistance avec les indépendantistes. Il y a ceux qui ont gagné les référendums et il y a ceux qui les ont perdus. Donc les compromis ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il faut que ça soit du 50-50. On a gagné trois référendums avec un boulet au pied qui était le gel du corps électoral. Et les indépendantistes, les plus radicaux, ont usé de la violence pour essayer justement d'obtenir par la ruse ce qu'ils n'avaient pas obtenu par les urnes. Donc des compromis, oui, mais enfin dans le cadre des résultats des trois référendums. Nous n'avons pas finalement à faire des concessions à un camp qui a perdu un vote populaire. Et voilà, donc je crois que c'est ça qu'il faut rappeler, parce qu'on a toujours l'impression que c'est 50-50 et qu'il faut faire un chemin un peu des deux côtés, moitié-moitié. On n'est pas là-dedans. Il y a des gens qui gagnent les élections, il y a des gens qui les perdent. Voilà, donc c'est à partir de là qu'on doit commencer la discussion.
Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Je vous rappelle que le ministre des Outre-mer est attendu samedi en Nouvelle-Calédonie. La province sud tient ses engagements financiers envers l'enseignement privé. C'est ce qu'elle tient à préciser dans un communiqué après que la DEC ait fait état des grandes difficultés financières qu'elle rencontre, Léo.
La province sud rappelle son soutien déterminé à la DEC et elle indique qu'elle est à jour de ses participations. En 2024, elle a versé 630 millions à l'enseignement catholique, soit 258 millions pour le financement de l'intégralité des collèges privés situés en province sud et 362 millions pour financer l'intégralité de la part des communes en province sud toujours. La province précise que pour 2025, avec des recettes fiscales en chute, une réduction de 9% identique à celle de l'enseignement public a été appliquée dans le privé. Mais dès le mois de février, la province sud a versé une subvention de 235 millions. C'était pour le financement des collèges privés. Un second versement est prévu au deuxième semestre. La province encourage par ailleurs la DEC à s'inscrire pleinement dans la démarche de rationalisation de la carte scolaire.
Radio Rythme Bleu, opinion.
L'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier. 56% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il faut impérativement sauver l'enseignement catholique de Nouvelle-Calédonie. Ils sont 44% à être d'un avis contraire. Voici notre question du jour. La relance du dispositif bouclier qualité-prix avec une liste de produits à bloquer peut-elle permettre, selon vous, de lutter contre la cherté de la vie? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. En bref, l'auteur d'un carjacking violent commis à Thiot, condamné hier par le tribunal correctionnel. Mercredi dernier, il avait agressé physiquement et verbalement une agricultrice et lui avait dérobé sa voiture. Hier matin, il a écopé d'une peine de 4 ans de prison, dont un an avec sursis probatoire, accompagné d'une interdiction de porter une arme pendant 5 ans. Notez que le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet, qui avait réclamé 30 mois de prison, dont 12 avec sursis. La fin que veut prendre Emmanuel au mot, la Fédération des entreprises et des industries de Nouvelle-Calédonie fait référence à une déclaration du ministre des Outre-mer qui a affirmé que les départements et territoires ultramarins devaient rompre avec la dépendance aux importations et favoriser la production locale. Dans un communiqué, la fin que se félicite de cette prise de position et elle espère que le ministre d'État rappellera aussi cette évidence lors de sa prochaine prochaine visite sur le territoire. La FINC relève que depuis les émeutes, la production locale calédonienne a perdu près de 7000 salariés et elle affirme que nous ne relancerons pas l'économie calédonienne et la création d'emplois en nous privant de la production locale et notamment de son premier secteur, l'industrie de transformation. Et puis, un rendez-vous à noter sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Le secrétaire général de la CFE-CGC, Jean-Philippe Tong, est actuellement sur le territoire. Quel regard porte-t-il sur la situation économique et sociale en Calédonie et quels sont les rapports avec l'UT-CFE-CGC ? Jean-Philippe Tong sera tout à l'heure notre invité du matin à 7h30. Il répondra aux questions de Jean-François Bodin. Il est 6h46, on va marquer une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, retour à l'actualité en métropole.
RRB 6h-8h, Lionel Sabot.
Croquettes Walpie au meilleur prix, c'est encore et toujours chez Cheval Distribution. Jusqu'au 6 avril, profitez d'un prix imbattable sur les croquettes chiens Walpie Croc 18 kg seulement à 3695 francs et Walpie Tonic 18 kg à 3895 francs chez Cheval Distribution. Retrouvez la promotion Walpie dans vos trois magasins. Bellevie, Apogotti et Michel-Ange.
Papa, maman, c'est le moment de vous faire plaisir avec le grand jeu Huggies. À gagner un siège auto, une poussette, un parc pour bébé et un baby cook. 4 gagnants, 4 super cadeaux. Alors prêt à tenter votre chance? Pour jouer, rendez-vous dans l'un des magasins participants. Plus d'infos sur la page Facebook, le 4. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Citrita.
Le marché Broussard revient au marché de Boulary. On remet ça le dimanche 30 mars de 6h à midi. Venez déguster et apprécier les produits du terroir. Boucherie, charcuterie, fruits et légumes, produits de la mer, animation musicale, stand-up, manège et animation pour les petits et les grands. Infoline 96 07 09.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
Info matin, la suite de l'actualité en métropole, on retrouve Lionel Sabot.
Oui, retour à l'actualité en métropole avec toute la classe politique rassemblée pour soutenir l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Toute la classe politique, sauf la France insoumise. L'écrivain de 80 ans est toujours détenu à Alger, accusé, vous le savez, par le régime algérien d'atteinte à la sécurité et à l'unité nationale. Il connaîtra sa peine après-demain. Rappelons qu'en fin de semaine dernière, le tribunal d'Alger avait requis 10 ans de prison à l'encontre de l'écrivain. Tôt ce matin, pour nous, ce sont donc plusieurs dizaines d'élus qui se sont retrouvés devant l'Assemblée nationale pour demander la libération de Boualem Sansal. Caroline Baudry pour Europe 1.
C'est un véritable défilé d'écharpes tricolores dans ce rassemblement de quelques centaines de personnes qui allaient d'Éric Zemmour à droite de l'échiquier politique aux socialistes à gauche. Pas de LFI, vous le disiez, selon un membre du comité de soutien de l'écrivain. Trop peu de gauche, m'a-t-il confié, ou plutôt s'est-il exclamé, pas surpris. Les députés de la majorité étaient présents, ainsi que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a pris la parole sur scène. La seule faute de Boualem Sansal est d'être libre, dit-il, libre comme un esprit français.
Il est derrière ses barreaux, mais je sais que libre, il le reste. Libre dans son esprit et que nos mains parviennent jusqu'à ses mains comme des mains secourables pour lui dire qu'il nous manque, que nous l'attendons. Oui, mes amis, que vos applaudissements d'écho, de ville en ville, puisse, si j'ose dire, bondir jusqu'à Alger.
Les représentants des deux chambres, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, ont aussi pris la parole. Une seule exigence, libérer Boualem, ont-ils lancé avant de remercier la mobilisation des citoyens et d'entonner la Marseillaise. Beaucoup d'anonymes étaient présents à titre personnel. Pour l'homme de 80 ans, malade, embastillé, et pour ce qu'il représente, l'universalisme et la liberté du poète.
Caroline Baudry du service politique d'Europe 1. Bruno Retailleau demande au préfet de sécuriser les lieux de culte juifs. Trois jours après l'agression en pleine rue du rabbin d'Orléans, une marche silencieuse est actuellement en cours dans les rues de la ville. Écoutez François qui participe à cette marche.
Je vois pas pourquoi on se fait agresser, pourquoi on risque de se faire tuer même. Ouais. Et à la limite, je trouve ça que c'est un miracle qu'il s'est pas fait tuer, ou qu'il n'y en a pas d'autres qui sont fait tuer. Parce que la limite, avec tout ce que le LFI sort de haine contre le peuple juif, même pas contre Israël, contre le peuple juif, hein, les manifestations de samedi, c'était une catastrophe, c'était insupportable. Moi, je suis grand-père, c'est insupportable ce qu'on vit, c'est une honte, c'est scandaleux, j'ai jamais vu ça de ma vie. En 62 ans, je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai pas peur pour moi. J'ai rien à craindre, moi. À la limite, moi, j'ai pas peur. Mais j'ai peur pour mes enfants, mes petits-enfants. Tous les jours, j'ai peur. Tous les soirs, j'ai peur. Tous les matins, j'ai peur. Et quand on entend une agression comme ça, mais Qui c'est qui va leur dire stop? Puisque personne leur dit stop.
François qui participe donc en ce moment avec plusieurs centaines de personnes à une marche de soutien au rabbin d'Orléans qui a été agressé il y a 3 jours en pleine rue et devant son fils. Les faits antisémites qui sont en hausse, on le sait depuis plusieurs mois. Et cette nuit pour nous, lors de la séance des questions au gouvernement, Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a eu des mots très forts en répondant au député écologiste Emmanuel Duplessis qui demandait comment l'exécutif fallait lutter contre l'antisémitisme.
L'antisémitisme, depuis le 7 octobre, ce sont 2 chiffres et 3 lettres. 1570 actes antisémites en 2024, 62% d'actes antireligieux concentrés sur nos compatriotes juifs quand ils comptent moins de 1% de la population, et 3 lettres, L, F, I. Honte à un parti et à Jean-Luc Mélenchon qui considère que l'antisémitisme est résiduel alors qu'il le ramène à un niveau structurel. Résiduel quand on consacre l'intégralité d'une campagne électorale à déverser sa haine d'Israël et à placer des cibles dans le dos de nos compatriotes juifs. Résiduel l'antisémitisme quand on choisit l'iconographie des années 30 pour ériger des affiches. Résiduel l'antisémitisme quand on chasse les femmes juives de manifestations pour l'égalité et les droits des femmes. Alors bravo à vous, mesdames et messieurs les députés de la France insoumise. Vous avez déjà le déshonneur et vous avez déjà la honte. Demain, vous aurez la défaite et vous serez ramenés au niveau que les Français voudront pour la France insoumise, un niveau qui, lui, doit être résiduel.
Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, c'était cette nuit pour nous lors de la séance des questions au gouvernement. L'actualité politique en métropole et ses questions autour de la survie du gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre a franchi le cap symbolique des 100 jours à l'hôtel de Matignon, mais il est désormais plus menacé que jamais après l'annonce du maintien de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Le Parti socialiste annonce qu'il est prêt à voter une motion de censure si le Premier ministre ne se range pas du côté du dialogue social, indique le parti. Aux voix du PS pourrait s'ajouter celle du Rassemblement national, le RN, qui pointe du doigt l'immobilisme du gouvernement. Écoutez Marine Le Pen.
C'est un véritable défilé d'écharpes tricolores dans ce rassemblement.
Alors, on va écouter peut-être Marine Le Pen, qu'on entendra dans une prochaine édition. Dans l'actualité également, les images que l'on peut voir depuis quelques heures sur les réseaux sociaux sont très impressionnantes. 2 avions, 2 Alpha Jets de la patrouille de France sont entrés en collision cette nuit pour nous lors d'un entraînement près de la base aérienne 113 de Saint-Dizier, c'est en Haute-Marne. Les 3 militaires qui se trouvaient à bord des 2 appareils ont réussi à s'éjecter et sont sains et saufs. Mélina Fachin pour Europe 1.
Ils ont été retrouvés vivants et conscients et ont été pris en charge médicalement, indique l'armée de l'air et de l'espace. Les 2 Alpha Jets dans lesquels se trouvaient 2 pilotes et 1 passager sont entrés en collision vers 15h35. Ils répétaient une manœuvre avec 5 autres avions de la patrouille de France en vue d'une représentation qui devait avoir lieu demain, précise la mairie de Saint-Dizier. Didier est le directeur d'une carrosserie toute proche de la base aérienne 113. Ses salariés ont assisté en direct à l'accident.
Premièrement, ils ont entendu la déflagration. Il y a eu 2 déflagrations. Même moi, j'ai entendu la déflagration. J'ai dit, qu'est-ce qui tombe là? Et je pensais même que c'était un autre avion qui faisait le mur du son, parce qu'on a tellement l'habitude avec la BA 113. Ils ont vu les parachutes, ce qui veut dire qu'ils ont vu les 2 pilotes. Et puis le gros nuage noir de fumée, voilà.
L'un des Alpha Jets s'est écrasé à proximité d'étang, l'autre dans un bâtiment d'une entreprise toute proche, mais aucune victime collatérale n'est à déplorer. Des enquêtes ont été ouvertes pour faire toute la lumière sur cet accident, précise l'armée. En août dernier, déjà 2 rafales de cette base aérienne de Saint-Dizier s'étaient percutées. Les 2 pilotes à la manœuvre étaient décédés dans la collision.
Mélina Fachin, correspondante Europe 1 dans le Grand Est. L'actualité à l'étranger, les États-Unis ont annoncé la nuit dernière que la Russie et l'Ukraine ont accepté de cesser les hostilités en mer Noire. Washington se disant par ailleurs prête à aider Moscou pour exporter ses produits agricoles et engrais sur les marchés mondiaux, Léo Fichou.
Chacun des 2 pays a accepté d'assurer la sécurité de la navigation, de supprimer l'usage de la force et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux pour des objectifs militaires en mer Noire. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche dans 2 communiqués distincts rendant compte des discussions de ces derniers jours. avec les Ukrainiens d'un côté et les Russes de l'autre en Arabie Saoudite. Le président ukrainien a par ailleurs affirmé que Kiev et Washington étaient d'accord pour impliquer des pays tiers, dans la supervision d'un possible trêve entre l'Ukraine et la Russie. Moscou et Washington se félicitent des efforts de pays tiers visant à faciliter l'application des accords, que ce soit sur la navigation en mer Noire et sur les frappes sur les installations énergétiques en Russie et en Ukraine, a indiqué le Kremlin ces dernières heures. Malgré ces discussions, les combats se poursuivent. Lundi, une frappe russe a fait 5 blessés, dont 23 enfants, à Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. Enfin, l'armée russe a annoncé avoir conquis 2 localités dans le sud et l'est de l'Ukraine.
Il est 6h et pratiquement 56 minutes. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive et la météo de votre mercredi.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Passionné d'équitation ou simple curieux, rendez-vous le week-end du 29 et 30 mars dans les centres équestres de Nouvelle-Calédonie pour Tous à Poney. Au programme, animation, découverte et sensations pour petits et grands. Trouvez le centre équestre le plus proche et le programme des activités sur www.crante.nc ou sur les réseaux sociaux. Venez vivre la magie du poney.
Croquette Walpie au meilleur prix, c'est encore et toujours chez Cheval Distribution. Jusqu'au 6 avril, profitez d'un prix imbattable sur les croquettes chiens Walpie Croc 18 kg seulement à 3695 francs et Walpie Tonic 18 kg à 3895 francs chez Cheval Distribution. Retrouvez la promotion Walpie dans vos 3 magasins. Bellevie, Apogotti et Michel-Ange. Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Info Matin avec l'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Et du tennis ce mercredi avec les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami. Fils et mon fils sont de la partie, Léo.
Oui, deux Français qui performent depuis le début de l'année. Le vétéran Gaël Monfils qui compte déjà 14 victoires pour seulement 4 défaites en 2025. Il a remporté, on le rappelle, l'ATP 250 d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Et puis le jeune Arthur Fils, meilleur tricolore au classement ATP, qui compte lui 10 victoires cette année. Ce matin, Gaël Monfils est opposé à l'Américain Sébastien Corda. Il y a un set partout et le Français est mené 4-3 dans le troisième set. Le match est suspendu en raison de la pluie. Arthur Fils, de son côté, jouera à 11h30 face à la tête de série numéro 2, le numéro 2 mondial, tout simplement, l'Allemand Alexander Zverev.
Michel Platini et Sepp Blatter acquittés en appel lors du procès dans l'affaire des 2 millions de francs suisses.
Le jugement est tombé peu après 20h, heure de Nouméa. Déjà relaxé en première instance au bénéfice du doute, Michel Platini et Sepp Blatter ont été de nouveau acquittés par les trois juges de la cour d'appel. Pour rappel, les deux hommes étaient poursuivis pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres dans un dossier qui reposait sur un paiement supposé déloyal à Michel Platini début 2011. Un paiement de 2 millions de francs suisses avec l'accord de Sepp Blatter, ex-président de la FIFA, pour un travail de conseiller technique effectué entre 1998 et 2002.
Et puis du cyclisme sur piste, dernière épreuve aujourd'hui pour deux des trois Calédoniens engagés au championnat d'Australie des moins de 17 ans.
Chad Charret et Enzo Martoreggio participent ce mercredi au Kérin sur le vélodrome de Brisbane. Pour Hugo Gardin, place au repos avant le retour à Nouméa. Après une semaine chargée, les jeunes Calédoniens font face depuis samedi aux meilleurs pistards de la région. Hier encore, ils étaient au départ du 500 mètres tous les trois. Chad a terminé 10e, Enzo 15e et Hugo 22e. Parmi les autres résultats de cette aventure australienne, en vitesse, Enzo Martoreggio s'est classé 10e en individuel. Il a d'ailleurs réalisé les minima pour les championnats de France. Chad Charret a terminé 17e de la finale du Scratch.
Et on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagé.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce matin, Thierry.
Oui, Lionel, ce matin, les nuages accompagnés d'averses faibles à localement modérées seront nombreux sur la côte est et plus passagers au Loyauté et sur les pointes nord et sud de la Grande Terre. Sur l'ouest, le temps sera plus sec avec de belles éclaircies en début de matinée, puis les nuages gagneront du terrain. Le vent orienté est-sud-est pour ce matin, il se rapproche des 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur le sud-ouest. Il sera plus faible sur la côte ouest entre 5 et 10 nœuds, orienté est-sud-est en début de matinée, puis 10 à 15 nœuds de sud-est. Cet après-midi, le ciel sera chargé sur la majeure partie du territoire. Les averses deviendront rares sur l'est alors qu'elles se généraliseront ailleurs et notamment sur le versant ouest de la chaîne où elles seront plus marquées, voire accompagnées d'un coup de tonnerre. L'alizé pour cet après-midi, 15 à 20 nœuds, localement 20 nœuds avec des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds sur le sud-ouest. Il reste un peu plus faible sur le nord-ouest autour des 15 nœuds. On termine par les températures. Elles seront comprises en général entre 29 et 30 degrés.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.